C'est l'heure d'accueillir Vincent Dublange pour la revue de presse. Bonjour Vincent.
Bonjour Vincent.
Oui.
Bonjour à tous.
À la une de la presse aujourd'hui, l'élection par la case prison, c'est le titre de Libération.
Quand on s'entend bien avec ses co-détenus, ça va, glisse avec une retenue polie, Sandra, 50 ans, en désignant le lit de fortune, un matelas posé sur une armoire couchée. Si le stratagème permet de ne pas dormir à même le sol, il réduit un peu plus l'espace de 9 mètres carrés occupé par les trois détenus. Libé nous emmène donc dans la maison d'arrêt de Nîmes, dans le sud de la France. On jongle, on en prend un ici, on le remet ailleurs, raconte un gardien à la journaliste. Une sorte de Tetris humain poursuit le quotidien, toujours sur le fil pour éviter les violences. Dans ce contexte, impossible de séparer les prévenus des condamnés, les primo-délinquants des voyous aguerris, les fumeurs des non-fumeurs. L'actualité des derniers jours ressemble à un furieux carambolage, remarque Libération. Et les chiffres de la surpopulation n'ont jamais été aussi élevés, 69 430 détenus en France. La directrice de Villepinte annonce dans un courriel que sa prison est bondée, qu'elle ne peut plus accueillir un seul détenu supplémentaire. Dans la foulée, les surveillants bloquent l'établissement. Le directeur de l'administration pénitentiaire, Philippe Galli, démissionne 6 mois après sa nomination. Enfin, le personnel de Fleury-Mérogis manifeste après des agressions. À quelques jours de la présidentielle, nous dit Libération, le problème de la prison se pose avec une acuité jamais atteinte.
La plupart des candidats à la présidentielle considèrent le champ carcéral comme un vaste chantier au sens littéral, regrette sans surprise le journal marqué à gauche.
Marine Le Pen, comme Nicolas Dupont-Aignan, vise 40 000 nouvelles places en 5 ans, même vision pour François Fillon qui en propose 16 000 sans jamais évoquer l'impératif de l'encellulement individuel. De son côté, Emmanuel Macron en prévoit 15 000 tout en développant les travaux d'intérêt général. Seules exceptions, affirme Libé, Benoît Hamon qui refuse de se lancer dans la surenchère et Jean-Luc Mélenchon qui souhaite lui aussi promouvoir les peines alternatives. Construire de nouvelles prisons plus modernes est nécessaire, admet les dernières nouvelles d'Alsace. Mais il est surtout urgent de repenser l'ensemble du système judiciaire en développant les peines alternatives et en réduisant drastiquement la détention provisoire qui grippe toute la machine et doit retrouver son caractère exceptionnel. Ce devrait être là un chantier de la toute première heure pour le nouveau président de la République. Pas une simple promesse de campagne, car comme l'a dit Jean-Jacques Urvoas, l'actuel ministre de la Justice, nos prisons annoncent les malheurs de demain. Mais, pointe l'Alsace, autre quotidien de l'Est de la France, la seule solution est bien d'accroître le nombre de places et de construire de nouveaux centres pénitentiaires. Ce n'est pas une mesure populaire, reconnaît le journal, dans la mesure où elle est coûteuse pour les finances publiques de l'État et que les collectivités locales préfèrent consacrer des terrains, souvent rares, à d'autres projets qu'à une nouvelle maison d'arrêt qui rapporte peu fiscalement et coûte beaucoup en termes de popularité aux élus.
Dans cette présidentielle, malheur aux vaincus, le Parisien aujourd'hui en France explique que la défaite pourrait signifier la fin de la carrière politique de certains candidats.
Nul besoin de s'appeler Madame Soleil pour deviner que François Fillon, éliminé d'emblée, disparaîtrait de chef de la scène politique. La page se tournerait aussi pour Benoît Hamon, lui qui se voyait sinon président, tout au moins à la tête du PS, pourra, en cas d'échec cuisant, dire adieu à ses rêves. C'est pour eux et pour leur parti que l'enjeu est le plus vital, dit le Parisien. Macron, Le Pen et Mélenchon pourraient, chacun à leur manière, rebondir en cas de défaite. Et le Parisien d'imaginer pour le candidat de la France insoumise un mouvement à la Podemos ou une belle force parlementaire aux législatives qui lui permettrait de s'imposer comme le leader de la gauche. Emmanuel Macron, lui, ne s'imagine pas au Parlement, ça le banaliserait, dit un de ses proches. Mais il voit bien son mouvement en marche poursuivre en se projetant sur les élections cantonales de 2020 et même déjà sur la présidentielle de 2022. La candidate frontiste, enfin, elle, serait sur la sellette en cas de non-présence au second tour, même si, selon le Parisien, son bras droit Florian Philippot pourrait servir de fusible. Au FN, ça défouraillerait dans tous les sens, anticipe un élu du parti d'extrême droite.
Mieux vaut en rire, nous dit le journal Le Monde.
Nombre d'humoristes montent sur scène à l'approche de l'élection, raconte le quotidien du soir, jusqu'à commenter les résultats en direct. Ils ont décidé d'aider le public à digérer par le rire cette élection, d'être les éditorialistes au nez rouge d'un pays en pleine confusion et de faire leur miel de cette joute électorale aux allures de séries télé, dit Le Monde. J'ai accumulé tant de notes sur l'actualité que je suis ravi de dire au public « Venez, vous vous sentirez moins seul », explique Christophe Alévèque. Autant ne pas se morfondre devant son poste de télévision, car visiblement, on va subir. Haroun, nouveau venu, prometteur chez les humoristes, préfère lui s'interroger sur notre fonction d'électeur plutôt que sur l'actualité pure et dure. Enfin, Frédéric Sigrist, lui, se dit « un peu perdu, las de cette quête vaine de l'homme providentiel et excédé par le simplisme du bouc émissaire, le voisin ou l'Europe.
L'Union, souvent montrée du doigt pour le manque d'harmonisation fiscale entre les pays et qui entraîne des délocalisations d'usines.
On est désolé, s'excuse presque dans Libération, les salariés polonais du fabricant d'électroménager Whirlpool à ceux d'Amiens dont le site ferme. Une réunion s'est d'ailleurs tenue hier à Matignon, rapporte le Figaro, le gouvernement qui tente de trouver un repreneur pour cette usine où Whirlpool avait récemment investi dans du matériel flambant neuf, à près d'un millier de kilomètres de là. La ville polonaise de Łódź accueille désormais la production des sèche-linges nouvelle génération, détaille Libération. Łódź, sortie du communisme et après deux décennies de crise, elle voit grand. Ses usines textiles en briques rouges du 19e siècle abritent des centres commerciaux. Mais ce n'est pas la gare ni même la transformation urbaine qui attire les investisseurs du monde entier comme Dell, Gillette ou BSH, je vais y arriver. C'est plutôt les prix bas de la main-d'œuvre, de surcroît, une main-d'œuvre qualifiée.
Merci Vincent Dublanche, c'était la revue de presse à retrouver sur notre site www.rfi.fr. À suivre toute l'actualité africaine.